Programme radiophonique spécial sur la 4e Conférence mondiale des femmes, septembre 1995, Beijing. Une production de la FAO. En route pour Beijing.
Pendant la Révolution verte, j'ai commis une grande erreur stratégique. Comme tous les experts et les agronomes, j'ai considéré que les fermiers du tiers-monde étaient tous des hommes. Les efforts d'amélioration de l'agriculture ne se sont donc adressés qu'à eux. Or, les deux tiers de l'alimentation vivrière des pays pauvres sont produits par des femmes. C'est à elles qu'auraient dû être destinés, par priorité, les programmes de développement.
Le docteur Swaminathan, d'origine indienne, père de la révolution verte en Inde et en Asie dans les années 70. Environ 20 ans plus tard, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, voudrait lancer une nouvelle révolution verte, revue et corrigée, appuyée sur les véritables acteurs et partenaires du développement. Les femmes, justement, et la communauté internationale aidant se sont employées à élever leur statut d'où qu'elles viennent. Il y a eu Mexico, 1975, première conférence internationale sur les femmes, année internationale de la femme, la décennie des Nations Unies pour la femme. Puis il y a eu Copenhague, en 1980, on fait le point à mi-chemin de la décennie. La conférence de Nairobi, en 1985, elle clôture la décennie, mais elle est porteuse de nouveaux espoirs avec les mémorables stratégies prospectives d'action de Nairobi pour le développement des femmes jusqu'en l'an 2000. Aujourd'hui, en 1995, les femmes du monde entier se retrouvent pour une 4e conférence mondiale, cette fois à Beijing, en terre chinoise. Dix ans après Nairobi sera la réflexion centrale du forum, mais plus encore, il sera temps d'agir pour accélérer le développement des femmes. Une plateforme pour l'action, véritable contrat social et politique international, est attendue.
Maintenant, il faut passer à l'action. Essayons de mettre en œuvre tous ces programmes que nous avons élaborés. Nous avons toute une banque de données sur les solutions aux problèmes des femmes. Il faut les utiliser. Il faut arriver à les mettre au centre des débats dans les discussions, par exemple au niveau de la préparation des plans nationaux de développement, aussi bien au niveau local, régional, national, mais aussi sur le plan international. Ensuite, l'autre aspect, c'est qu'il faudrait qu'on arrive vraiment à mobiliser les femmes, à se rendre compte elles-mêmes de leur potentialité, de leurs possibilités, à améliorer le système d'information. Je crois que ce qui a manqué ces dernières 20 années, c'est vraiment un système d'information efficace, capable de toucher les personnes qui doivent participer à leur propre développement.
Depuis 1975, la situation des femmes rurales est l'une des préoccupations majeures de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En 1989, elle adoptera un plan d'action pour l'intégration des femmes dans le développement, qui lui servira de cadre général de ses activités dans ce domaine. Plus récemment encore, en septembre 1993, la FAO a assisté 47 pays membres dans les activités préparatoires de Beijing. En rendant les femmes rurales plus visibles par l'amélioration des statistiques, des systèmes et supports d'information, en accélérant leur formation et en attirant l'attention internationale sur la catégorie des femmes rurales par une participation active à toutes les initiatives des Nations Unies. Madame Marie Randriama Monji fait partie de la nouvelle direction des femmes dans le développement rural, qui était encore un service en 1994. Pour elle, il y a des progrès.
Et je dois dire qu'il y a énormément de progrès dans la prise de conscience de l'importance des femmes rurales dans le développement. Je l'ai noté à Vienne, je l'ai noté encore plus en Afrique, et d'ailleurs la plateforme d'action pour la région africaine rend hommage à ce rôle important des femmes rurales en mentionnant des recommandations très précises, très concrètes, pour que le sort de ces femmes rurales soit amélioré dans le passé et surtout de l'après-Pékin. Il faudrait que nous puissions demander à nos gouvernements de nous rendre compte de la mise en œuvre de leur politique de développement.
En 1995, les deux tiers des États membres des Nations Unies ont ratifié la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Un pas important, certes, dans le respect des droits de l'homme, mais des voix s'élèvent encore en sa faveur.
Et la meilleure façon de libérer la femme, c'est sur le plan économique. Il faut créer les conditions de développement d'activités économiques pour les femmes, au même titre que les hommes. Et je pense que dans des pays comme le Sénégal, il est évident que les femmes sont très entreprenantes en milieu urbain, mais il faudrait mettre l'accent davantage sur le milieu rural. Là, les femmes sont confrontées à des problèmes de survie, elles sont confrontées à des problèmes d'emploi et tout.
Sek Saliou se veut homme de terrain au ministère sénégalais de la femme, de l'enfant et de la famille, où il travaille à la formulation de programmes pour la promotion socio-économique des femmes. Il regrette que les décisions internationales ne soient pas toujours suivies de programmes d'appui.
Je pense que là, il faudrait que la communauté internationale accorde un peu plus d'attention aux problèmes que les femmes rencontrent. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, dans nos pays respectifs, l'État ne peut plus tout faire. Au contraire, même dans le cadre de nos activités, nous cherchons le développement de l'initiative privée, l'autoprise en charge par les femmes. Mais pour arriver à cet objectif, il faut nécessairement un soutien conséquent, un programme d'animation bien développé, le développement de réseaux d'accès au crédit, la formation. Et ça, ça coûte de l'argent et souvent nos États ne sont pas capables de faire face à ces charges-là.
La mobilisation de la communauté internationale est peut-être lente, mais des efforts sont à signaler, notamment dans la région de Kayes, au Mali, l'une des zones les plus défavorisées du pays. Là, un projet de la FAO, financé par la Belgique, a sensiblement contribué à améliorer le mieux-être des familles en augmentant les ressources alimentaires avec des meilleures techniques de culture, de production et de commercialisation enseignées aux femmes. Ailleurs, en Mauritanie entre autres, l'adhésion politique au concept d'intégration des femmes perd de sa force dès lors qu'il s'agit de passer aux actes concrets. Madame Marietou Koné vit cette contradiction dans son travail au secrétariat d'État à la condition féminine à Nouakchott, où elle s'occupe des centres d'auto-emploi féminin.
Il y a des problèmes au niveau pratique, par exemple au niveau de l'accès des crédits. Les femmes ont un sérieux problème à ce niveau parce qu'il faut des garanties. Une des garanties, c'est la propriété foncière, mais vu l'état d'analphabétisme de nos femmes en milieu rural et aussi le secteur bancaire, il n'est pas très, très développé en Mauritanie.
Même obstacle constaté au Sénégal.
Les banques, les institutions financières classiques ne répondent pas souvent aux aspirations des femmes parce qu'il faudrait tenir compte de leurs spécificités de manière à pouvoir mettre en place un système qui répondrait à leurs besoins et qui leur serait accessible.
Pourtant, le mouvement associatif, une traduction du vieil adage « l'union fait la force », s'est développé en milieu rural. Un projet de participation populaire, commencé en Zambie par la FAO en 1983, en est à sa troisième phase. Son but, créer des groupes informels d'auto-assistance autour d'activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, 71% des membres des 162 groupes formés dans trois districts du pays sont des femmes. Elles ont de bonnes récoltes, de bonnes ventes, des crédits et sont crédibles. Le Cameroun peut aussi se targuer d'être un pionnier en matière de coopérative rurale féminine. Mais Mme Julienne Gann, conseillère en animation rurale au ministère camerounais de l'Agriculture, se rend compte que ce n'est pas suffisant.
Disons, actuellement, on assiste à une prolifération des associations féminines. Bon, ce qui prouve que la femme rurale au Cameroun a pris conscience du poids qu'elle représentait dans la société et surtout du rôle névralgique qu'elle jouait dans le secteur économique. Mais nous sommes confrontés à des problèmes, surtout nous les services d'encadrement, parce qu'en fait, nous devrions appuyer les efforts de cette femme rurale pour l'aider à s'auto-promouvoir.
Les outils et les moyens d'encadrement manquent, mais surtout les femmes rurales sans terre et donc sans garantie sont tenues à l'écart du système économique et du circuit commercial national, parce que leur rôle d'agent productif à part entière au secteur agricole rural n'est pas encore suffisamment reconnu et appuyé juridiquement et économiquement. Pourtant, 78% des femmes africaines actives travaillent dans l'agriculture. Mais les priorités politiques et financières vont au secteur du commerce et de l'industrie où les hommes dominent. Seulement voilà, le taux d'analphabétisme des femmes en milieu rural reste très élevé et constitue ainsi un obstacle majeur aux efforts de développement en leur faveur. Pour la Camerounaise Julienne Gann, le lourd fardeau des travaux au foyer et au champ ne devrait plus être un prétexte à ne pas se rendre aux séances de vulgarisation agricole.
Les problèmes concernent surtout le savoir-faire, l'acquisition de certaines technologies appropriées, l'allègement même du travail de la femme, parce qu'elle a un emploi du temps trop chargé. Si elle ne trouve pas assez de temps dans ses tâches ménagères, elle ne pourra pas trouver du temps aussi pour pouvoir se former. Donc ça, c'est un grand problème.
La mobilisation devrait aussi être générale pour leur apprendre à lire, à écrire et à compter pour une meilleure gestion de leurs projets. Diane Templeman est chargée du programme d'intégration de la femme dans le développement rural au bureau régional de la FAO pour l'Afrique, basé à Accra, au Ghana. Elle sillonne régulièrement la région et son constat est sans équivoque.
Beaucoup de programmes s'orientent plutôt vers l'écriture et la lecture de langues nationales, ce qui est important. Mais pour les adultes économiquement actifs, il est plus important des fois d'apprendre les calculs pour pouvoir connaître le prix correct des produits, pour pouvoir vérifier les taxes qu'elles doivent payer au marché, pour pouvoir suivre les reçus de leur vente de produits. Les programmes de calcul sont pas tellement appropriés, ne répondent pas tellement aux besoins des femmes qui sont actives, et c'est pour cela que notre bureau a donc développé un programme de formation uniquement pour le calcul, pour leur permettre d'apprendre une comptabilité simplifiée qui leur permet de réfléchir s'il n'y a pas de possibilité d'améliorer la gestion de leurs activités économiques.
Le XXe siècle aura été celui de la prise de conscience de la femme sur elle-même et donc d'une redéfinition de son rôle dans la société. Mais si la question de la place des femmes n'est pas résolue, au moins est-elle maintenant posée partout, dans l'agriculture et l'alimentation autant qu'ailleurs. Le directeur général de la FAO, le docteur Jacques Diouf, en a fait l'une de ses priorités.
Nous avons pensé aussi devoir donner plus d'importance au problème de la femme dans nos structures. Et c'est pour cela que j'ai proposé que nous puissions avoir une division qui s'occupe des problèmes de la femme et que la personne responsable, qui est une femme, puisque j'ai nommé une femme, puisse veiller à ce que les problèmes de la femme soient pris en considération davantage dans la manière dont nous abordons les problèmes de l'agriculture et les problèmes du milieu rural dans l'ensemble.
C'était un programme spécial de la FAO sur la 4e Conférence mondiale des femmes de septembre 1995 à Beijing, produit par Liliane Kambirigi, réalisé par Eric Deleu.